Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Deux invités ce midi pour un Transparence un peu spécial consacré à l'accord signé hier sur la reprise de l'usine du Sud. Les deux invités sont donc Sonia Baquès, la présidente de la province Sud. Bonjour, merci d'accepter votre invitation.
Bonjour.
Vous êtes là au-delà de la présidence de la province Sud, vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, pour les loyalistes également, au titre duquel on a signé cet accord.
Et Adolphe Digoué, pour le FLNKS. Vous aussi, Adolphe Digoué, à quel titre est-ce que vous vous exprimez ce midi? Que les choses soient bien claires.
Là, je suis membre du FLNKS et donc le collectif m'a demandé d'assumer cette partie.
Le collectif qui rassemble l'ICAN et le collectif du Sud du Pays. Voilà. Eh bien, merci à tous les deux d'accepter votre invitation pour y voir un peu plus clair sur cet accord qui a été signé hier après-midi sous l'égide de la coordination et la facilitation du président du Congrès, Rocco Amiton. C'est un nouveau modèle qui repose sur la maîtrise de la ressource, la valorisation de la richesse et la préservation de l'environnement. Première question, est-ce que vous êtes satisfait de cet accord? On a dit hier que c'était un accord gagnant-gagnant. C'est votre conviction ou l'un et l'autre, chacun de vos partis ont dû faire des compromis, on imagine? Sonia Baquès, gagnant-gagnant?
Oui, évidemment, puisqu'on l'a signé. Je pense que c'était l'intérêt pour tous les Calédoniens de sortir de cette période compliquée. Et puis on est sorti au-delà d'une négociation sur un simple accord. On est sorti avec un nouveau modèle pour la Nouvelle-Calédonie et je pense que ça a un intérêt qui va au-delà de la question de ce conflit.
Et vous, Adolphe Digoué, on sait que vous aviez des revendications, enfin que le collectif avait des revendications assez fortes ces derniers mois. Vous êtes satisfait malgré tout? Vous estimez que vous n'avez pas dû faire trop de compromis?
Ben, comme nos vis-à-vis, hein, c'est une solution d'entente hein, pour sortir du conflit. À cet accord, on a acté les différentes étapes. Hein, là. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de reniement. La province a pris en compte hein, la parole des gens de l'endroit. Et qui peuvent aussi incarner hein, un peu la parole de l'ensemble du pays. Quand on dit que c'est un accord qui nous permet de sortir par le haut. Voilà.
Alors, l'usine a provoqué de très vives tensions avec des positions qui semblaient irréconciliables. Sur la forme, d'abord, comment vous êtes parvenu à ouvrir ces discussions? Qui a pris l'initiative? Comment ça s'est passé? Parce qu'on a eu un moment l'impression que c'était fini, quoi, que plus personne ne s'adressait la parole. Qu'est-ce qui a pris l'initiative d'ouvrir ces discussions?
En fait, tu vas? je crois qu'on était arrivé à un moment où il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises, c'est-à-dire que le processus a avancé et à un moment donné, moi j'ai dit que je souhaitais reporter la date de l'Assemblée de province pour ouvrir le dialogue. En parallèle, il y a eu une démarche qui a été initiée par le président du Congrès pour initier ce dialogue. Donc je crois qu'on était arrivé à un moment où tout le monde avait la volonté de se parler. Et c'est vrai qu'on a fait 16 réunions hein, pendant ces trois dernières semaines. Et ce qui était très important, c'est d'écouter ce qui était important, essentiel pour les uns et pour les autres, entendre ce qui était important pour les uns et pour les autres, et essayer de faire au mieux pour que chacun s'y retrouve. Et je pense que c'était ça l'exercice auquel on n'était plus forcément habitué depuis un moment.
Alors on parle d'un accord politique et non pas un accord industriel. Pourquoi un accord politique, Adolphe Digoué? C'est vraiment ce sont les partis politiques de Nouvelle-Calédonie qui ont décidé de s'entendre sur l'avenir de l'usine du Sud, voire l'avenir des modèles miniers.
Bien, mais comme vient de dire la présidente de la province, qu'il y a une que elle a introduit dans le circuit institutionnel, le dossier tel qu'il était. Et pour sortir du conflit, elle nous a proposé de rentrer en négociation et ce sur quoi on s'est attendu au niveau du collectif et plus particulièrement au niveau des gens qui sont engagés sur le terrain. Il a fallu donner un exutoire. Il faut lui donner un exutoire. Parce que depuis décembre, on s'est pas compris. On a été chercher une discussion d'abord avec l'État. Hein, l'État nous a bien fait comprendre que c'est quand même vous, les Calédoniens, qui avez la compétence en matière de nickel. Et donc c'était un peu notre revendication est restée un peu dans l'impasse jusqu'à ce que la présidente de la province sud donc, nous donne donc, cette occasion. Et on l'a saisi, donc c'est ce qui s'est passé donc, durant ces trois dernières semaines.
Alors pour revenir peut-être dans le détail autant que possible de cet accord, donc maîtrise de la ressource, valorisation de la richesse, préservation de l'environnement. Ce qui intéresse peut-être les Canadiens, c'est de bien comprendre le tour de table, comme on dit, qui a été réalisé. Quel est l'actionnariat? Qu'est-ce qui rachète Vale finalement? 95% des parts ont été mises en vente par Vale. C'est un consortium purement calédonien qui le rachète. Hein.
Oui, alors, c'est vrai que ce qu'on a voulu faire, nous, dès le départ, c'est sortir de ce prisme qui était uniquement la question de l'actionnariat, qui nous a opposés pendant des mois et des mois. Et c'est en sortant de ce prisme-là, en réfléchissant un peu en dehors de nos postures habituelles, qu'on a réussi à en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, d'abord, on s'est assez vite mis d'accord sur les questions d'environnement. Parce que sur les questions d'environnement, on est tous très attachés à ce que le barrage soit sécurisé, que les résidus soient pas toxiques, etc. Donc on s'est assez vite mis d'accord là-dessus. Et on s'est posé la question de fond, parce que vous parlez d'un actionnariat calédonien. On va y revenir, hein, bien sûr, on va expliquer qui est dans l'actionnariat. Mais c'est au-delà de ça. La revendication des indépendantistes depuis des années et des années, c'est la maîtrise de la ressource et la valorisation de la richesse. Et jusqu'à présent, on était en train de se battre là-dessus, sur 51-49 ou pas 51-49. Et en fait, on est sorti de nos postures, on est sorti du cadre habituel, puisqu'on va devoir même modifier le code minier, pour construire un nouveau modèle qui fasse que les titres soient bien des titres qui sont détenus par une entité calédonienne, en l'occurrence une filiale de Promosud dans laquelle il y aura les populations locales. Et donc c'est là que la maîtrise de la ressource, on l'acquiert. C'est pas, enfin, la question du capital, encore une fois, on va y revenir, on a bien 51% d'actionnariat calédonien, donc c'est bien, on peut bien considérer ça, mais au-delà de ça, c'est vraiment la maîtrise de la ressource. Et enfin, parce qu'on a quand même du mal à gagner de l'argent sur notre nickel, on va avoir une valorisation directe de nos titres miniers, donc de la richesse de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, donc, s'agissant donc, de cet aspect, hein, donc, c'est un aspect fondamental de notre revendication. C'est-à-dire que la maîtrise, parce que pour nous, jusqu'ici, c'est un capital naturel transformé dans un capital social. C'est ça la base de notre doctrine. Et donc, avec le schéma qui nous est proposé, de sortir de l'actif de Vale NC, les titres miniers et les scinder à une société ou bien en tout cas à une entité de la province sud, ça résout en partie notre positionnement fondamental. À savoir qu'on veut valoriser un gisement dans le cadre d'un montage. Dans un montage. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour le Nord, parce qu'on avait une usine à construire. Et l'ensemble du gisement a été valorisé pour justement permettre la construction. Il s'agit pour nous, dans le Sud, de reprendre un actif qui existe. Donc, on a le port, on a l'usine. Et la mine qui faisait partie de l'actif de Vale NC a cédé, mais qu'on a pu décrocher par la négociation qu'il y a eu. Et donc, Madame la Présidente a obtenu de Vale NC de pouvoir décrocher.
Et les titres miniers donc, reviennent à la province pour faire court, pour faire simple, et ils sont loués à l'industriel. Hein. C'est l'innovation, ça ne s'est jamais fait en Nouvelle-Calédonie, ce genre de modèle ?
Non, en fait, il y a des locations de titres, ce qu'on appelle une amodiation, terme technique. Il y a des locations de titres entre une société et une autre société privée. Jusqu'à présent, c'était comme ça que ça fonctionnait. Le modèle qu'on crée là est nouveau. C'est-à-dire que le fait que une industrie minière, finalement, n'est pas elle-même, que l'exploitant lui-même n'ait pas les titres, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau et c'est la grande révolution de ce qu'on a fait là. Après, vous parliez du capital. Le capital, on a aussi souhaité qu'on puisse avoir un capital qui soit calédonien, une société qui soit calédonienne. Donc là, c'est effectivement 30%. Je rappelle que jusqu'à présent, c'était 95% Vale, 5% la SPMSC, qui est la société qui regroupe les trois provinces. Là, la SPMSC passe de 5 à 30% gratuitement. Les intérêts locaux avec les salariés et les populations locales à 21%, c'est ça le total de 51%. Et ensuite, on a l'actionnariat extérieur, entre guillemets, avec CFP et Trafigura.
On va revenir d'ailleurs un peu sur cet actionnariat tout de même. Adolphe Ladiguet parlait donc du modèle du Nord, enfin de ce qui s'est passé dans le Nord. C'est quand même deux cas de figure complètement différents, notamment il y a le chiffre symbolique de 51%. Donc là, on est à 51% d'intérêts calédoniens, mais c'est pas la collectivité qui est à hauteur de 51%. Hein.
C'est ça.
Voilà, bien entendu. Mais les collègues donc, de la province sud, en tout cas des loyalistes, nous ont convaincus, c'est que les titres appartiennent désormais au pays. Et donc, ils ne seront pas nantis. Et donc, si toutefois, on ne réussissait pas, et donc quelqu'un serait intéressé, mais il viendrait juste pour faire fonctionner l'usine, hein, faire fonctionner le port, les choses et tout. Mais les titres, ce sont les Calédoniens qui les maîtrisent. Et donc, si vous voulez, ça y ressemble en partie à ce qui se fait dans le Nord.
Ça ressemble en partie. La SPMS, c'est à hauteur de 30%, donc c'est les trois provinces. C'est gratuit, on monte de 5 à 30%. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment ça se justifie, cette augmentation, et pourquoi c'est gratuit?
Parce qu'on a bien négocié. Plus sérieusement, c'est vrai que là, du coup, on n'a pas une collectivité publique qui se retrouve actionnaire à 51%, donc le risque financier n'est pas porté par la collectivité publique. On a effectivement négocié que la SPMSC puisse passer de 5 à 30% gratuitement. C'est aussi l'apport, hein, c'est ce que pèse l'apport de notre richesse, hein, dans l'accord qui est passé. On avait également quelques milliards de dettes qui ont été annulées dans le cadre de cette cession, hein, que ce soit les dettes au BRGM, que ce soit les dettes avalées. Aujourd'hui, les différentes sociétés calédoniennes qui rentrent dans l'accord n'ont plus de dettes et donc rentrent dans l'accord à zéro.
Les salariés et les populations locales à hauteur de 21%. Alors, on sait que dans les précédents projets, il y avait déjà cet actionnariat salarial qui est assez nouveau d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Les populations locales, Adolphe Ladiguet, c'est qui? Et comment est-ce qu'elle rentre dans le capital?
Alors, s'agissant des populations locales, ils seront donc regroupés dans un fonds de prévoyance des risques environnementaux et sociaux. Ça va être l'ensemble des citoyens qui seront concernés par ce fonds-là.
Mais ce sont les tribus, ce sont les gens du Sud,
c'est... Pour le moment, c'est ouvert à l'ensemble des citoyens. C'est un fonds. C'est un fonds qui va regrouper.
Et les Calédoniens peuvent souscrire éventuellement pour rentrer dans ce fonds ou...
Il ne s'agit pas pour le moment d'un actionnariat populaire où chacun amène des billes. Hein? Donc pour le moment, au niveau de la négociation, en tout cas ce qui a été acté, c'est un fonds qui regrouperait l'ensemble des intérêts calédoniens, y compris les individus, les tribus, les groupes d'individus.
Et là aussi, c'est un fonds qui est... Comment est-ce qu'il est abondé? L'argent vient d'où?
Il a été négocié également que l'entrée de cette société se fasse gratuitement. Mais juste un mot supplémentaire, parce qu'on parle beaucoup de l'actionnariat de Prony Ressources, qui demain s'appellera Goro Ressources. On parle beaucoup de cet actionnariat-là. Mais en fait, encore une fois, la grande nouveauté, c'est quand même cette histoire de titres et cette histoire de qui possède les titres et qui les loue. Parce que c'est finalement là... qu'il va y avoir des ressources nouvelles, une valorisation enfin de la richesse calédonienne. Et dans cette société qu'on appelle Sud Nickel, qui est une filiale de Promo Sud, il y a également une représentation des populations locales. Et on a voulu aussi faire quelque chose d'un peu nouveau. En province Nord et en province Sud, on a du nickel. On n'en a pas en province des Îles. Et donc on a souhaité pouvoir donner à la province des Îles un petit quelque chose là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on est, et ça va dans le sens du fonds de prévoyance dont parlait Adolphe Ladiguet à l'instant, c'est l'idée, c'est quoi? C'est de dire on pioche dans la ressource calédonienne, on l'épuise petit à petit. L'idée, c'est comment on fait pour prévoir la suite, pour préparer la suite. Et l'idée, c'est aussi, à mon sens, hein, en tout cas pour ce qui nous concerne, de préparer de la diversification économique, de préparer finalement le fait que les jeunes calédoniens aient du travail en dehors du nickel également.
Alors le partenaire industriel, pour continuer avec cet actionnariat malgré tout, Trafigura à hauteur de 19%. C'était un point de blocage, Trafigura. Finalement, vous l'acceptez parce qu'il n'y a personne d'autre, parce que c'est le meilleur, parce qu'il fallait faire avec?
Trafigura reste à l'issue d'une négociation. Hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a pris 3 semaines. Hein, et donc Trafigura reste, mais sans Antonin Beurrier. Donc il fallait le dire et le préciser. Et donc Trafigura reste pour les raisons que le dossier existait déjà. Il y a déjà eu des engagements financiers. Hein, mais il est bien dit dans l'accord. Hein, qu'il faudra qu'on se donne les 3 premières années. Hein? Et donc, au bout, en 2024, en fin 2024, ben, on fera le bilan à la fois sur le plan industriel, hein, sur le plan économique, hein, et sur le plan environnemental. Est-ce que Trafigura, en tant qu'industriel ou en tant qu'actionnaire, a joué le jeu? Ou en tout cas, a été à la hauteur des enjeux, hein? Et il est bien dit qu'à ce moment-là, donc, on reverrait l'actionnariat, hein, sur le plan donc, financier et sur le plan industriel.
Donc, en si recherchant éventuellement si un voulez, autre industriel, ça reste...
C'est ouvert. L'accord le prévoit. On peut aller chercher une capacité industrielle sur le plan hydrométallurgique. C'est prévu dans l'accord, parce que c'est celui-là qui nous manque aujourd'hui. Mais on ne l'a pas sorti, mais on a présenter un processus. Et le protocole qui a été signé hier, hein, c'est une entente, mais c'est sur un processus, hein, qui va regrouper les calédoniens.
D'accord, voilà pour Trafigura. La compagnie financière de Prony, enfin, à hauteur de 30%, ça aussi, on voit mal ce que ça représente exactement, cette compagnie financière de Prony. Alors, c'est là où devait être Antonin Beurrier, notamment, et Antonin Beurrier n'y est plus. Hein.
Antonin Beurrier n'y est plus. Je pense qu'il faut revenir sur l'état des choses quand on a commencé la discussion. Il y a un peu plus d'un an maintenant, quand Valais a décidé de partir, il y avait au départ quelques repreneurs potentiels, et puis il y a eu le Covid, et puis il n'y avait plus de repreneurs du tout. Et à ce moment-là, il a fallu aller chercher des gens qui étaient intéressés par le projet. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le nickel calédonien, mais ils sont surtout intéressés par le fait de récupérer le produit qui sort, mais pas forcément à rentrer dans le capital. Parce que rentrer dans le capital en Calédonie, ça pose tout un tas de problèmes. Et c'est vrai qu'on a moins de candidats pour rentrer au capital que pour acheter le produit qui sort de notre usine. Donc, il y a eu un énorme effort qui a été fait à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'actionnariat salarié. C'est pour ça qu'il y a eu le management qui s'est positionné pour dire « Nous, on prend le risque avec la société qui viendra. » Et c'est comme ça que Trafigura est venue. Elle est venue parce qu'elle a dit « Ok, je peux faire confiance. » Parce que je vois que le management s'implique, je vois que les salariés s'impliquent. Donc, le résultat de cet actionnariat, c'est aussi le résultat de tout ça, avec un industriel, Trafigura, qui a accepté de venir dans ces conditions-là. Donc oui, CFP, c'est le management, et c'est un fonds australien qui permet, parce qu'à un moment donné, on a dit tous les gens qui rentraient gratuitement, mais à un moment donné, il y a quand même des gens qui payent dans cette histoire. Et donc, les gens qui payent, c'est Trafigura, qui a été... Je tiens à le souligner quand même, qui a été extrêmement moteur dans ces discussions, puisqu'on en a discuté tous les jours avec eux, sur la question des titres notamment, puisqu'ils ont compris très vite, eux, que ça existe ailleurs, et ils pouvaient... Pourtant, c'est un choix extrêmement lourd de conséquences. Hein. Ils étaient propriétaires de leurs titres, et ils le seront plus demain. Ils ont été moteurs là-dedans parce que je crois que... Enfin, ils croient, eux, dans la réussite de ce projet, comme nous, on y croit. Je crois que dans 3 ans, on verra ce que ça donne, mais on aura fait Lucie... Et vous savez, l'accord avec Tesla, et on va sans doute y revenir, mais l'accord avec Tesla prouve que notre produit, ce qu'on va sortir de notre usine, est recherché, et je suis convaincue qu'on va réussir à avoir d'excellents résultats avec cette usine.
Voilà, si on parle argent encore un petit moment, il y a Valais qui va payer, Valais qui laisse de l'argent, c'était prévu dès le début, qui va également payer la remise en état du site, hein, c'est ce qui est convenu dans l'accord.
Oui, alors c'est pas dans cet accord-là, parce que Valais n'est pas signataire de cet accord-là. Non. Mais effectivement, les dégâts, enfin, la remise en état du site a un coût extrêmement lourd. Valais est prêt à financer ce redémarrage à condition que l'usine soit vendue. C'est-à-dire que Valais ne voulait pas que le redémarrage ne veut pas d'ailleurs que le redémarrage de l'usine se fasse sans que la vente soit effective. Donc ils sont d'accord pour payer, mais à condition d'avoir la certitude que l'usine est vendue.
Et alors l'État également participe au rachat, à la reprise de l'usine ?
C'est Adolphe. Qui va répondre sur l'État?
Non, Adolphe, pas.
Non. Enfin, je veux dire, mais bien sûr.
Vous avez tous signé cet accord.
Bien sûr. Donc,
ça, l'État, c'est dans l'accord.
Dans le deal, il y a Valais, qui laissait 50 milliards. Donc, l'État, à travers ses différentes contributions, laisse environ 60 milliards. Hein. Et donc, parce que c'est ce qu'il faut pour faire démarrer les choses et tout ça. Donc, oui, bien entendu, l'État y contribue.
Et alors, il y a enfin le partenariat emblématique avec Tesla, le spécialiste des voitures électriques. On sait que le produit qui doit être, qui doit sortir de l'usine, c'est le NHC, qui est le produit qui sert de base aux batteries de véhicules électriques. Quel va être le rôle de Tesla dans ce... Dans l'avenir de l'usine, ils vont s'occuper de quoi? Ils vont acheter le produit? Ils veulent éventuellement être conseillers techniques? Comment ça va se passer avec eux?
L'avantage d'avoir un industriel comme Tesla, c'est que c'est le plus grand constructeur de voitures électriques, hein, donc dans les besoins. Ce qu'ils nous ont indiqué lors de la visioconférence qu'on a eue avec eux, c'est qu'ils viendraient dans ce qu'ils appelleraient un comité technique, hein, et qu'ils nous épauleraient, ou en tout cas nous appuieraient sur les choix des évolutions possibles de notre produit. Aujourd'hui, l'usine de Rendema, et on va produire jusqu'au NHC. Hein. Mais bien entendu, l'ambition des Calédoniens, c'est de pouvoir transformer et sortir à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Hein? Donc, ce qu'ils nous ont bien indiqué, c'est que le NHC, tel qu'il est produit aujourd'hui, ils font d'abord le faire raffiner. Hein? Parce qu'eux, ils ont besoin de nickel pur. Hein? Et donc, ce qu'ils nous ont aussi indiqué, c'est du nickel métal ou bien du sulfure de nickel. Donc ça nous donne les orientations déjà sur ce qui deviendrait. Donc là, s'il fallait réinstaller une raffinerie sur site, c'est plutôt vers cette cible-là qu'il faut viser plutôt que de ressortir du nickel oxyde.
Pour perfectionner le produit et faire quelque chose qui soit vraiment adapté au marché. Oui,
en fait, bien sûr. Ouais, l'intérêt de Tesla, c'est que c'est eux qui créent la technologie, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un coup d'avance sur beaucoup de gens dans le monde. Et donc l'idée, c'est que ce partenariat, il va permettre finalement que la Calédonie soit à chaque fois au cœur de ces avancées technologiques, de manière à ce que, en fait, on produise ce dont on a besoin dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc Tesla, l'idée de ce partenariat, c'est que Tesla nous aide à ce que notre produit soit celui qui est attendu sur le marché. Donc à ce qu'on ait la valorisation la plus grande du produit qu'on vend. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le NHC, ils nous ont expliqué qu'effectivement, en ce moment, c'est ça qui est attendu, c'est ce produit-là. Ils veulent travailler avec nous sur le fait que ce soit que ce nickel soit le plus vert possible. Vous savez que Tesla a beaucoup d'ambition en matière environnementale, et donc l'idée, c'est aussi que la Nouvelle-Calédonie puisse être une vitrine sur cette question du nickel vert qui est attendu énormément dans le monde. Donc Tesla va nous accompagner là-dessus, et quand les technologies évoluent ou au fur et à mesure des besoins qu'il peut y avoir, eh bien l'idée, c'est d'avancer. S'il y a besoin de raffiner sur place, on raffine. Si c'est pour faire du sulfate de nickel, on fera du sulfate de nickel. Si c'est etc., etc. L'idée, c'est que Tesla nous accompagne là-dedans.
Et c'est un partenariat effectivement très intéressant. Alors, on en parlait, le nickel vert, la préservation de l'environnement, c'est aussi l'un des volets importants de cet accord politique. Adolphe Diguet, c'était l'une des revendications essentielles, on peut dire, du collectif, la protection, la préservation de l'environnement.
Voilà, mais bien entendu, ça a même été évoqué comme un préalable. Hein, mais je veux dire, le préalable a aussitôt été levé, puisque une première table ronde organisée par l'État. Ensuite, je crois que la province Sud a organisé le CICS. Hein, et à la suite de ça, l'exécutif de la province Sud a proposé un arrêté avec un certain nombre qui reprenant un certain nombre d'expertises complémentaires à réaliser. Je crois qu'il y en a 7. Dans la première, il s'agit de vérifier la stabilité de KO2. La première, les deux premières expertises, s'agissant de KO2. la stabilité et puis le phénomène de liquéfaction. Donc ça doit être repris dans cette expertise-là. Les autres aspects, ce sont des aspects donc, qui concernent la bioaccumulation. Est-ce que les installations de mesure sont suffisantes? Est-ce qu'ils ne font pas rajouter d'autres? Et donc, tout de suite, comme a dit donc, la présidente de la province, ceux qui nous représentent, qui discutent à notre... Donc, ils discutent pour nous donc, sur cet aspect-là. Donc, ils sont vite tombés d'accord.
Et le lancement du projet Lucie, c'est également quelque chose qui vous satisfait?
Dans l'accord, je m'excuse. Donc, c'est bien un sujet prépondérant. Donc, il a été bien pointé dans l'accord que dès que les gens reviennent sur site et puis remettent en fonctionnement le site, on souhaite que la construction de Lucie se mette en place. Parce que ce qui est dit dans l'accord, c'est que en 2025, on souhaite que Lucie rentre en production ou en tout cas rentre en service. Et ce qui est fléché, c'est que il faut qu'on ait séché l'ensemble des bouts contenus actuellement dans le bassin KO2 et ceux qui arriveraient chaque année du process, et qu'en 2031, lorsqu'il se reposerait donc, la question de la capacité de la berne, mais on aurait l'ensemble des bouts séchés. Donc c'est ça un peu, c'est un peu le chemin sur lequel, qui est tracé aussi, c'est pas tout de suite, mais on trace un chemin et on essaie de s'y atteler, ou en tout cas, c'est autour de ça qu'il faut qu'on travaille.
Sur l'environnement, la province sud avait toujours dit qu'elle maintenait ses engagements et que ça n'a pas été un point de blocage pour vous.
Ah non, pas du tout, au contraire. Enfin, je crois que toutes les populations, la province sud, les loyalistes que je représente aussi, on est très, très attachés à ça. Enfin, on a tous intérêt à ce que le barrage ne casse pas, on a tous intérêt à ce qu'il n'y ait pas de conséquences pour la population, et on a tous intérêt à ce que les normes environnementales soient les plus hautes possibles, de manière à ce que l'image de la Nouvelle-Calédonie reste bonne à l'extérieur sur le nickel qu'on produit. Donc là-dessus, on a très vite trouvé des points d'accord parce que ça fait partie des préoccupations de tout le monde.
Au niveau des réactions maintenant, comment l'environnement, c'est justement l'un des points clés, un petit peu des revendications du collectif, de l'ICAN. La base, si on peut dire, a accepté cet accord ou est-ce que certains ont encore des réticences, vous reprochent d'avoir fait trop de concessions? Ça se passe comment, Adolphe Digoué?
Nous avons présenté la démarche. Nous avons présenté la démarche en notre base. Et l'essentiel de notre base, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, nous ont donné leur accord. Hein. On a bien expliqué qu'on était rentré en négociation pour porter un projet, on ressort avec à l'issue d'une négociation. Hein, et donc c'est autour de ça qu'on veut travailler. Et de toute manière, on va reprendre contact. Et il faut continuer à expliquer. Maintenant que l'accord est là, donc il faudra aller l'expliquer, les termes de l'accord, point par point.
Alors on sait par ailleurs que ce conflit autour de l'usine du Sud a produit un certain nombre de violences, d'exactions, de destructions, d'agressions. Il y a des procédures juridiques en cours. Qu'est-ce que vous demandez? On en est où? Comment les choses vont se passer? C'est une question que se posent quand même les Calédoniens aujourd'hui. Est-ce que cet accord efface tout? Ou est-ce que les gens qui ont commis des actes délictueux, qui ont agressé des forces de l'ordre, qui ont détruit l'usine, vont devoir être sanctionnés? Est-ce que ça a été abordé? Quelle est votre réponse?
La réponse, c'est qu'on a mis en place, comme on a mis en place un comité de suivi de cet accord, sur les aspects environnementaux, sur les aspects industriels, les choses, on s'est convenu entre nous de mettre en place ce qu'on appelait un comité de crise. Hein? Bien entendu, on essaiera à l'intérieur de ce comité de crise d'avoir la province, bien entendu, l'industriel, l'État. Hein. Notre souhait, c'est que à chaque situation, une évolution, ou en tout cas, qu'on prenne en compte l'ensemble des dossiers. Il y a les gens qui ont été incarcérés, il y a les gens qui sont poursuivis, il y a les gens qui sont licenciés, il y a des gens qui... Et puis à l'intérieur de nos populations locales, là-haut, ben, il y a eu des tensions, les choses et tout. Et donc, ben, c'est comment on peut réhabiliter les gens? Il est hors de question que l'accord efface tout, non? C'est pas un accord, c'est l'amnistie. Donc, mais qu'on souhaite qu'on traite au cas par cas toutes les situations qui découleront donc du dossier.
Et c'est ce comité de crise qui en sera chargé, ce...
Oui, juste un mot pour dire que la justice n'est pas signataire de l'accord. Hein. Donc voilà, chacun joue son rôle, la justice joue son rôle, il y a des choses qui ont été faites. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont été touchés par ce... dans les deux sens, hein, qui ont été touchés par ce conflit. Il y a sans doute des démarches qui vont être faites aussi sur le site, hein, parce que les salariés, pour réhabiliter les uns les autres, voilà, il y a des choses à faire. Mais évidemment, nous, on a signé un accord politique. Hein. Et ça a été dit par Adolphe, il n'y a pas d'amnistie dans un accord politique. Donc l'idée, c'est simplement de prendre en compte les situations humaines qu'on va rencontrer dans le cadre de ce comité de crise.
Alors cet accord politique est signé, l'usine va pouvoir entrer en nouveau en activité. Quel est le calendrier maintenant? On vous a fait le plus dur, mais il reste encore à remettre le site en état, à relancer les choses. Qu'est-ce qui est prévu? Il faut des autorisations aussi, j'imagine, encore. Le Conseil consultatif des mines doit se réunir ou non? L'Assemblée de province doit se réunir ou non?
En fait, il y a deux choses différentes. Hein. Il y a le processus de cession de l'usine, dans lequel il y aura la fin du processus qui doit continuer avec l'Assemblée de province, et puis avec toute la partie finalisation. Il y a quand même un certain nombre de modifications dans le pacte d'actionnaires entre les uns et les autres en fonction de cet accord. Il y a des modifications du coût bancaire, parce qu'évidemment, les comités de crédit des banques regardent ce qui s'est passé là pour savoir quelles sont les conséquences financières qu'il y a. Les titres, ça a forcément des conséquences, etc. etc. Donc ça devrait être finalisé d'ici la fin du mois de mars. Mais l'idée, c'est, on l'a évoqué un peu ce matin, mais l'idée, c'est que la remobilisation se fasse au fur et à mesure. Donc sans doute... la semaine prochaine, la préparation de la remobilisation, ça c'est les informations de l'entreprise, hein, Valais NC, la remobilisation se ferait petit à petit de manière à ce qu'il puisse y avoir un redémarrage à partir du 15 mars au fur et à mesure, avec, je le rappelle, hein, la volonté de Valais de voir la vente se faire avant que le redémarrage effectif et la production de nickel se fasse.
Parce qu'il faudrait que Valais signe aussi un jour...
Il y a la vente. À un moment donné, la vente soit effective. Donc c'est, ça va arriver sans doute à la fin du mois de mars, le temps que les différentes procédures se fassent. Mais ça n'empêche pas en parallèle que le processus de redémarrage, qui en tout va prendre un mois. Hein. Donc même quand si on démarrait aujourd'hui, il faut un mois pour que l'ensemble des procédures se fassent. Donc l'idée, c'est que ça puisse commencer autour du 15 mars, pour que ce soit effectif au milieu du mois d'avril.
C'est comme ça que vous voyez les choses, Adolphe Digoué? Il reste beaucoup de choses encore à faire avant que tout puisse redémarrer comme avant?
Bien entendu, c'est ce qu'on a dit, hein, hier, c'est qu'on a signé un accord, mais le plus dur reste à faire. C'est devant nous. Et donc là, on rentre dans un processus de reprise. Et donc, il faut retourner, il faut réexpliquer, et donc, mais on se donne la semaine, les 15 jours, et donc là. Mais on est dans un processus de reprise.
Au lendemain de la signature de cet accord, elle sera la conclusion. Vous avez le sentiment, l'un et l'autre, d'avoir fait progresser les choses. Vous êtes satisfait de cet accord? Vous êtes soulagé?
Ok, commence.
L'accord nous dit au moins quelque chose, c'est que on a été capable de pouvoir s'entendre sur un processus. Et d'appeler ça un accord politique, alors que il s'agit là d'une transaction privée. Mais on était capable d'aller chercher un accord politique là, pour asseoir pérennement une situation économique, ou en tout cas les choses. Mais bien entendu, nous on est ouvert à ce qu'on puisse poursuivre. C'est un autre dossier, et le dossier qui nous intéresse tout le monde, c'est l'avenir de ce pays. Voilà.
D'ailleurs, le ministre a saisi la balle au bon. Hein. Il vous a dit que maintenant, la prochaine étape, c'était des discussions sur l'avenir institutionnel. Donc, c'est envisageable aujourd'hui?
Cet accord, on l'a trouvé entre nous. Hein, donc, on a été capable de se parler entre nous. Je pense que c'est, enfin moi en tout cas, je pense que c'est la manière dont les choses se sont passées, au-delà même du contenu de l'accord, la manière dont les choses se sont passées et le fait de pouvoir se parler de l'intérêt des Calédoniens et des blocages ou des intérêts des uns et des autres, je pense que ça va dans le bon sens pour la suite.
Et ça va sans doute rassurer en tout cas les Calédoniens qui s'inquiétaient depuis plusieurs mois. Sonia Bacchès-Adol-Digoé, merci d'accepter notre invitation ce midi pour nous en dire plus sur cet accord politique relatif au règlement du conflit posé par le transfert à un nouvel industriel de l'usine hydrométallurgique de Valence. C'est le nom exact de l'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.